Et donc, je vais directement passer la parole à Aurélie Binot, donc du CIRAD, hein, qui va revenir sur la question de l'implication dans une approche One Health à partir de travaux qui ont été réalisés au CIRAD. Et donc, c'est particulièrement important parce que ça nous permet de penser l'articulation entre gestion de la santé animale et gestion de la santé humaine. Et je pense que nous, en tant qu'anthropologues de la santé, ayant travaillé beaucoup sur la santé humaine, on a beaucoup à apprendre aussi de ce qui s'est fait antérieurement en santé animale. Donc, Aurélie Binot, je te donne la parole pour 15 minutes.
Merci. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais essayer de partager avec vous une expérience, l'expérience d'une anthropologue dans un dispositif One Health, dans différents pays d'Asie du Sud-Est, à travers quelques exemples concrets, l'exemple d'un projet notamment. Et je pense qu'à travers ce partage d'expérience, je vous invite à discuter peut-être d'une autre posture de l'anthropologue dans ce genre de dispositif, qui est d'être en fait, quelque sorte, le passeur, le constructeur de pont, la constructrice de pont, entre différentes disciplines, mais également entre différents secteurs et différentes communautés d'acteurs. Donc, dans le cadre One Health, alors peut-être un mot quand même pour revenir sur One Health, c'est pas que la collaboration entre la médecine vétérinaire et la médecine humaine. À travers le cadre conceptuel One Health, il y a aussi la reconnaissance du fait que les nouveaux risques émergents sont pour beaucoup associés à des modifications de processus socio-écologiques. Et que donc, pour traiter ces questions et ces nouveaux risques émergents de manière la plus pertinente possible, il faut comprendre ces processus socio-écologiques et proposer en fait un cadre systémique d'analyse interdisciplinaire, donc, mais également d'intervention, donc en connectant différents niveaux d'opération et en mettant en contact différents types de communautés d'acteurs. Donc on se retrouve finalement dans ce type de cadre d'opération à accompagner une démarche intégrée, multi-acteurs et un dispositif transdisciplinaire. L'exemple que je vais vous présenter là vient d'un projet qu'on a mis en œuvre avec le CIRAD, l'Institut Pasteur du Cambodge, l'Université d'Oxford, l'Université du Laos et l'Université de Khaset Sarth en Thaïlande. Et qui visait en fait, c'était financé par EuroPED, par l'Union européenne, donc avec une entrée quand même très, beaucoup plus développement que recherche, et qui visait à renforcer les acteurs non dominants du One Health. C'était formulé comme ça dans l'appel à proposition. Donc en gros, c'était comment la dimension environnementale de ces nouveaux risques émergents peut être mieux traitée et mise en œuvre avec les acteurs de terrain également, et également la dimension sociale, donc vraiment ce cadre socio-écologique. Et on a procédé en fait par étude de cas, en partant de différents terrains avec des études micro-locales ou locales selon les pays, pour en fait construire, co-construire tout au fil du projet des dispositifs multi-acteurs et multisectoriels pour travailler sur certaines problématiques sanitaires, en gardant bien en tête que ce qui importait dans cette démarche, c'était la connexion entre des groupes d'acteurs sociaux très différents qui ont des pratiques, des conceptions différentes, et d'intégrer dans ces problématiques sanitaires le secteur agricole, le secteur environnemental et puis les autorités locales, la société civile autant que possible. Donc on était vraiment dans l'objet que je vois aussi en tant qu'anthropologue en prenant un peu de recul après la fin du projet, parce que pendant le projet, finalement, ma fonction d'anthropologue a été surtout d'accompagner la co-construction. Et finalement, très peu, et je le regrette a posteriori, de questionner le dispositif en lui-même. Pour travailler sur cet objet donc, de co-construction transdisciplinaire, on s'est appuyé sur des démarches participatives de plusieurs types. Donc, on s'est référé au cadre de l'épidémiologie participative avec lequel le monde vétérinaire, disons, commence à être de plus en plus familier, et également avec de la modélisation d'accompagnement, modélisation participative, qui est un cadre méthodo qui a été essentiellement développé pour traiter des questions de gestion des ressources naturelles renouvelables, de gestion de la biodiversité autour de parcs nationaux, par exemple, et qu'on a mobilisé et revisité sur des problématiques sanitaires. Et ça fait référence notamment aux travaux du réseau COMODE, que vous connaissez peut-être en France, avec l'unité de recherche Green, certaines unités de l'INRA, etc., qui ont travaillé avec ce cadre méthodo et l'ont développé pour des questions de gestion de la biodiversité. Alors, le lien, finalement, quand même un petit mot par rapport à la posture d'un anthropologue ou d'un réseau d'anthropologues ou des sciences sociales d'une manière plus large dans ce genre de dispositif. Déjà, c'est qu'on adopte un cadre conceptuel qui n'est pas foncièrement un cadre en sciences sociales, parce qu'on va s'inscrire dans une posture de sciences post-normales, on va travailler avec peut-être comme référence tout ce qui est sciences de la durabilité, donc déjà des cadres conceptuels transdisciplinaires. Où en fait le champ de recherche va surtout se définir non pas tellement par rapport au questionnement en sciences sociales, mais par rapport à l'objet sur lequel on travaille, ce qui permet finalement d'avoir un objet commun et de co-construire une représentation partagée de la problématique avec d'autres disciplines, avec des médecins, avec des vétérinaires, avec des environnementalistes. Donc de travailler à l'échelle du socio-écosystème. Et puis, à travers cette démarche transdisciplinaire, quand même, on va questionner la relation asymétrique qu'il peut y avoir quand même dans le monde biomédical autour de la légitimité des acteurs, et ça fait une transition intéressante avec la présentation d'Eva, des acteurs communautaires, enfin, des acteurs sociaux qui sont profanes par rapport à des questions biomédicales, et de finalement questionner, de confronter un petit peu la légitimité de ces acteurs profanes par rapport aux experts, par rapport aux médecins, aux vétérinaires, aux personnes, aux agents institutionnels qui sont légitimes et habilités finalement à vraiment traiter les questions de santé, qu'il s'agisse de santé animale ou de santé humaine. Et finalement, d'amener dans ce dispositif transdisciplinaire aussi toute la question de l'innovation sociale. On n'est finalement pas que dans la sphère de l'anthropologie, mais aussi de la sociologie de l'innovation, où pour traiter de manière pertinente ces nouveaux risques émergents, ben, il ne s'agit pas que de découvrir de nouveaux vaccins ou de mettre en place, enfin, d'aller sur la dimension innovation technique, mais il y a également toute cette innovation sociale, des changements de pratiques bien sûr, mais aussi des changements de connexion, d'interaction et des changements de conception pour différents types d'acteurs sociaux. Donc on est vraiment dans un cadre plutôt, je veux dire, socio-technique. Donc finalement là aussi, en tant qu'anthropologue, on sort un petit peu de notre zone de confort et on flirte avec la sociologie, la théorie de l'acteur réseau, etc. Donc finalement, dans ce processus, ce qu'on fait, c'est qu'on amène on construit des ponts, on décloisonne, et on travaille sur le nexus santé, environnement, agriculture. Ça revient finalement à ça, de mettre en œuvre un dispositif One Health. Et du coup, ça nous sort, en abordant le cadre One Health de cette manière-là, on sort clairement du cadre biomédical. Et on s'inscrit dans une recherche d'accompagnement des différents acteurs sociaux concernés. Comme le temps file, je vais me concentrer là sur une petite illustration. Parmi les différentes études de cas de ce projet EuroPET, on a travaillé sur la possible émergence du virus Nipah au Cambodge. Parce que cette maladie modèle, en fait, constituer un modèle super intéressant en termes d'interaction santé, environnement, agriculture, qui est la manière dont on abordait le One Health. Excusez, j'ai du mal avec la télécommande. Donc, deux mots sur le virus Nipah. C'est une maladie émergente qui a été reconnue comme maladie, quand même, maladie zoonotique prioritaire dans le cadre du système de la convention tripartite OMS OIE FAO. Il y a eu une émergence en Malaisie à la fin du XXe siècle, une réémergence au Bangladesh en 2001, mais cette maladie n'a pas émergé, certains diront pas encore, au Cambodge. Le réservoir de la maladie, c'est chauve-souris, pas particulièrement l'espèce flying fox. Je ne traduirai pas par renard volant, mais donc c'est une espèce de chauve-souris frugivore qui porte le virus, mais qui peut le transmettre à travers son urine et sa salive, mais qui n'est pas affectée par le virus. En revanche, le virus peut être transmis à certaines espèces animales et à l'homme, et en termes d'espèces animales, notamment aux cochons, ce qui nous amène dans le contexte de certaines zones rurales du Cambodge à faire un lien avec donc des facteurs de risque essentiellement liés aux pratiques agricoles, à des pratiques, donc les différentes routes possibles de transmission du NIPA seraient donc par le contact avec des chauves-souris via la collecte de fruits, de jus de palme, la collecte du guano pour fertiliser les champs et puis le contact chauves-souris, cochons, humains, disons. Je vais aller vite là-dessus pour venir au cœur de la présentation. Donc, pour comprendre réellement les tenants, les aboutissants et la grande complexité du risque lié à l'émergence du NIPA au Cambodge, on a mis en place un tas d'études assez classiques et en silo, je vais dire, des études sur l'écologie des chauves-souris, sur l'épidémiologie de NIPA dans les populations de chauves-souris, des études en virologie. Des études par rapport au changement de land use et dans quelle mesure ça crée de nouvelles interfaces pour une possible transmission du virus. Et puis une étude anthropologique pour comprendre un petit peu la NIPA, vu que les populations au Cambodge ne connaissent pas cette maladie, mais la compréhension qu'il peut y avoir, les perceptions des encéphalites, parce que le virus NIPA est une encéphalite. Une fois qu'on s'est retrouvé avec ce matériel finalement de recherche disciplinaire, multidisciplinaire, on l'a intégré dans un jeu de rôle dont les règles, en fait un jeu de plateau que je vais vous montrer ici, qu'on a mis en place sur le terrain dans des communautés villageoises, et on a formaté, calibré les règles du jeu par rapport à la fréquence en fait des contacts homme-chauve-souris, et connaissant certaines règles épidémiologiques environnementales, on a à travers le jeu simulé en fait l'apparition d'une maladie sans nommer NIPA, en lien avec des facteurs de risque qui avaient été identifiés lors de la phase d'étude en amont. L'utilisation de ce jeu a permis en fait après aux équipes de Pasteur, appuyées par Vétérinaires sans frontières, d'ouvrir en fait une discussion qui n'avait pas vraiment vocation d'être une sensibilisation, mais simplement un échange avec les villageois qui avaient joué, autour de cette maladie, autour également de l'encéphalite japonaise, parce qu'on avait deux versions du jeu. Et c'était assez exploratoire, ça n'a pas été utilisé réellement dans le cadre d'une campagne de prévention ou de préparation, mais en tout cas pour ébaucher une discussion sur les possibles mesures de prévention par rapport à ces maladies-là, et puis d'offrir en fait un nouveau cadre d'échange de savoir d'une ouverture d'une discussion entre les groupes de santé publique et les villageois. Dans le cadre de ce projet, on a également développé un autre jeu que j'ai amené ici, si vous voulez le regarder après, en mettant en scène un petit peu d'une manière similaire, mais plus simplement, avec un jeu de cartes, sur la rage, donc centré sur les bonnes pratiques pour qu'est-ce qu'il faut faire quand on est confronté à un risque de rage dans un contexte particulier. Et tout ça pour dire que finalement, quand on est dans ce genre de dispositif, on travaille finalement avec les approches participatives à la production d'artefacts qui a un potentiel assez intéressant, je pense, en termes de co-construction de ces artefacts avec les communautés, comme on dit, tout en étant, je pense, et là je voudrais terminer là-dessus, bien conscient d'un tas de risques éthiques qui sont liés aussi à l'instrumentalisation en fait des sciences sociales dans la co-construction de ces artefacts, des risques qu'on peut tout à fait gérer, je pense, et surmonter. Et voilà, mais qui soulève en fait un tas de questions par rapport à l'utilisation de ces artefacts dans le cadre de programmes de gestion de la santé. Donc il y a un potentiel qui est, je pense, formidable, parce que utiliser le jeu ou d'autres types d'artefacts, le théâtre forum, il y a un tas de co-constructions participatives assez nouvelles, assez intéressantes, qui peuvent mobiliser d'autres types de processus cognitifs pour le partage de savoir, l'apprentissage, la co-élaboration de solutions pour stimuler l'intelligence collective, comme on dit, mais qu'il faut être vigilant, rester vigilant en tant qu'anthropologue qui développe en fait ce type de démarche par rapport à les questions éthiques que ça va soulever, l'utilisation qui va en être faite, et toujours cette possible instrumentalisation. Mais néanmoins, ce type de démarche pose, je pense, un potentiel très fort en termes d'intégration entre des démarches quantitatives et qualitatives, et pour réellement co-construire un processus transdisciplinaire. Ça permet, ça apporte des leviers intéressants, je trouve, pour aller plus loin dans la construction transdisciplinaire. Je vous remercie. J'étais un peu vite sur la fin.
Merci beaucoup, Aurélie, pour cette présentation très intéressante et qui fait réfléchir, en tout cas, et qui apporte des éléments nouveaux à ce que nous, on a l'habitude de... Enfin, à ce que moi, j'ai l'habitude de connaître. Donc, on va se laisser... je dirais deux questions pour Aurélie et après le débat global sur l'ensemble de la séance. Voilà, qui aurait des questions à Aurélie ?
Merci de votre présentation. Je ne connais pas bien ces approches-là et j'avais une question par rapport à... Donc vous disiez co-construction participative pour partage de savoir, apprentissage, co-construction de décision, risque d'instrumentalisation des SHS, etc. Est-ce qu'il y a une évaluation des effets performatifs, finalement ? Est-ce qu'il y a une évaluation de la performativité de ce qui est fait ? Est-ce que c'est un souci ? Est-ce qu'il y a un dispositif qui est mis en place ? Quelle est la suite après le jeu, en quelque sorte ?
Alors, dans le cas... Oui, c'est une question super pertinente que je me pose aussi. Donc, dans le cadre de la valorisation et réutilisation de ces outils, de ces démarches, c'est indispensable d'avoir un suivi évaluation finalement de l'impact que ça a et de ce que ça modifie dans les systèmes de valeurs, systèmes de croyances, etc. Mais dans le cadre de l'exemple que je vous ai présenté là, on n'a pas mis en place de système d'évaluation. C'est venu sur la fin, on l'a utilisé comme un outil d'intégration de connaissances. Il y a eu un premier test, mais il n'y a pas... si on l'utilise vraiment dans le cadre d'un programme de gestion de la santé, c'est indispensable, je pense, de se poser cette question-là.
Merci, c'était une autre question. Oui. Tamara.
Je suis défendue. Donc, merci pour une présentation que j'ai trouvée tout à fait passionnante. Je pense que j'espère qu'on aura un peu de temps à discuter plus tard. Mais ce qui m'a vraiment touchée, c'était surtout à la fin, quand vous avez souligné des risques pour les anthropologues d'être instrumentalisés. Et de plus, de ne pas même dans ces projets dits transdisciplinaires, multidisciplinaires, je ne sais pas quoi, de ne pas être, donner la liberté de contribuer aux questions et aux objectifs centrales. Moi, j'ai vécu cette expérience étant à l'Institut Pasteur pendant... un peu de temps. Et je dirais, je pense que la réponse pour ça, c'est pour nous d'être, je ne sais pas comment dire, excuse-moi, le français ne sort pas très bien, mais pour nous, étant les PI de ces projets et de faire venir les épidémiologistes, les virologues, les écologistes, etc., de suivre notre projet et de participer à nos projets. Excusez-moi, mais j'espère que c'est clair. Parce que c'est en étant PI de cette sorte de projet, et ce n'est pas pour me vanter, mais je pense que plusieurs personnes dans cette salle sont réellement capables à le faire et je pense que plusieurs ont déjà fait. mais je pense que c'est très important parce que quand on est à la tête d'un projet, on a le pouvoir de dire aux virologues, je suis désolée, on ne va pas publier un article qui se focalise que sur des mécanismes, blablabla. Il faut intégrer les sciences sociales et l'anthropologie. Et je pense que c'est là où on peut être vigilant.
Mais merci pour cette remarque. Moi, ça a été mon expérience, justement, en tant que PI de ce projet-là. Et c'est vrai que ça donne un autre... Ça renverse, en fait, cette question d'instrumentalisation. J'ai la chance d'être dans une équipe où finalement elle ne se pose plus du tout parce qu'on co-construit et comme on a adopté un cadre commun qui est ce cadre approche intégrée de la santé qui vient de l'unité agir à la base, la question ne se pose plus, mais il faut rester vigilant à ça. Et c'est vrai que dans le consortium, par exemple, avec l'Institut Pasteur, la question s'est posée plusieurs fois aussi de redéfinir ça, ou même avec l'Université du Laos, avec les services vétérinaires qui voulaient d'emblée aller prélever, faire des échantillonnages sur les... Mais non, on va d'abord poser le problème et prendre le temps qu'il faudra pour comprendre quelle est réellement la question de recherche avant d'aller faire des prélèvements biologiques.
Ok, merci Aurélie pour la réponse. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on utilise les quelques minutes qui nous restent. Je vois que Sophie est revenue. Pour le repas, c'est bon ? D'accord, donc on ne va pas trop dépasser l'horaire. Je pense qu'on peut se donner 5 minutes de plus, donc on peut se donner 10 minutes de débat global, transversal. Là, donc, j'abuse de mon pouvoir de président et je vais poser une question transversale que je voulais poser à Almudena ce matin, la première séance, mais qui concerne aussi toutes les présentations qui ont été faites sur la question et qui rajouterait un axe au programme que nous propose Alice pour 15 ans. c'est la question de en quoi les imaginaires scientifiques, les espoirs des chercheurs, les obsessions scientifiques de certains chercheurs orientent à la fois la science, ça c'est pour Almudena, mais orientent aussi la préparation aux épidémies. Et je pense que c'est transversal. Et par exemple, dans l'intervention de Eva, en quoi, alors ça c'est une de mes obsessions que certains connaissent, notamment dans la cuisine, c'est n'est-il pas nécessaire de déconstruire le concept de communauté qui a induit énormément de problèmes dans la riposte, et notamment, on le voit, d'abord des relais communautaires, des agents communautaires, ils sont extrêmement variables d'un pays à l'autre, mais par exemple sur la question des rituels funéraires, ce qu'on est en train de conclure après 3 ans de recherche dans RIFEPIC, c'est que ce n'est pas les bons interlocuteurs sur la gestion des rituels funéraires. Or, c'est une habitude de la santé publique que de s'adresser à ce qu'ils appellent des relais communautaires. Et c'est le principe même de la communauté qui pose problème, cette boîte noire, comme dirait Bruno Latour, cette boîte noire scientifique et cette boîte noire de la santé publique qui fait que ça nous fait l'économie et de réfléchir sur ce que c'est qu'une communauté et de savoir si c'est vraiment pertinent. Et nous-mêmes, anthropologues, on s'est laissé piéger par ce concept et on continue d'évoluer dedans. Donc, voilà. Mais c'est un imaginaire scientifique ou un imaginaire de la santé publique parmi d'autres. Je ne faisais pas uniquement référence à ça, aussi aux obsessions des virologues de trouver absolument un virus dans une chauve-souris. Donc, je ne sais pas, ça s'adresse à... Voilà, c'est une question globale.
Une petite remarque, je crois que François Roger est parti, mais dans votre unité, il y a eu un très bel article de Serge Mourant et collaborateurs sur l'imaginaire des chauves-souris chez les scientifiques et qui montre que parmi les scientifiques, entre virologues et autres, ceux des acteurs de terrain et plus distants, il y a des représentations assez différentes de la chauve-souris. Donc, il y a effectivement l'anthropologie.
Mais en quoi s'agit sur la préparation ?
Je peux apporter une... Par rapport à la question que tu soulèves, qui est vraiment clé, puis c'est cette perception de la communauté. Finalement, mon expérience, c'est qu'à travers ces démarches participatives, la rhétorique participative, elle est tartinée toutes les sauces, mais finalement, quand on se donne les moyens de construire un dispositif participatif qui a du sens, finalement, on construit cette communauté, elle n'est pas définie a priori, parce que c'est à travers le processus participatif que les acteurs vont être identifiés, les fameux stakeholders, et que elle va se construire, la communauté, par rapport à l'objet. Et donc, on lui donne du sens. Et je trouve que c'est un beau retour Finalement, on est parti d'une vision caricaturale de ce que c'est la participation communautaire, etc. Mais ça nous donne finalement un cadre où on peut se donner les moyens de réellement construire une communauté qui a du sens par rapport à un objet donné. Et je trouve ça joli, en fait, de voir ce retour de balancier.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui.